Retrouvez Dear Well People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.
Et bonjour à tous, chers auditeurs, vous êtes de retour sur Dear Well People, l'émission qui parle de handicap sans tabou. La semaine dernière, avec Mickaël Gallien, on a pu discuter de son poste dans les finances publiques et de son parcours, son changement de voie professionnelle dû à son handicap, le concours, comment ça s'est passé pour lui, au final, sa prise de poste. Et il a pu nous parler aussi de cette relation qu'il peut avoir avec son correspondant handicap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir cette correspondante handicap, Madame Sandrine Lepage. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Alors, dis-nous tout, c'est quoi que ce poste de correspondant handicap? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est pourtant totalement nécessaire pour les travailleurs en situation de handicap.
Alors, le correspondant handicap, en fait, est le relais de proximité en matière de handicap. Il s'occupe aussi bien du recrutement des travailleurs en situation de handicap que de l'aménagement des postes en cours de mission ou en cours de poste des agents dans le cadre de sa fonction tout le long de sa carrière.
Avec Mickaël, on a pu discuter aussi de différents financements avec la GFIP, le FIP, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi la responsabilité du correspondant handicap de demander ces financements?
Alors oui, le correspondant handicap en fait met en place les aménagements de poste et notamment donc le cadre des financements. Alors, il y a deux systèmes de financement, surtout essentiellement. Donc, le bureau RH2C qui finance du matériel essentiellement et la mission handicap qui finance tout ce qui est aménagement immobilier ou aménagement spécifique.
D'accord. Et pour vous, en fait, au niveau du handicap, vous traitez tout type de handicap, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Donc ça, comment vous réussissez à faire le tri? Je suppose que les demandes ne sont jamais les mêmes, que les handicaps sont toujours très différents. Donc ça vous demande une certaine adaptation aux différents types de handicaps de chacun.
Alors en effet, chaque handicap étant différent, il faut pouvoir s'adapter, mais on a surtout l'avantage d'être en relation avec le médecin de prévention qui détermine, lui, par rapport aux pathologies, les aménagements nécessaires.
D'accord, donc c'est plus une réponse à ce que prescrit le médecin de prévention, finalement.
C'est une mise en œuvre, tout à fait.
Et vous, Sandrine, comment vous êtes arrivée à ce poste? Est-ce que vous connaissiez déjà? Comment ça s'est déroulé?
Alors, j'ai pris mes fonctions en 2015, suite à mon arrivée aux ressources humaines 2 ans avant. Le handicap, je connaissais un petit peu de par ma vie personnelle, puisque j'avais le frère de mon beau-frère qui était handicapé. Donc, le handicap était déjà une notion un petit peu connue de ma part. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure, donc de ma prise de poste, toutes les caractéristiques de cette mission et les mises en pratique nécessaires à mettre en place.
C'est un métier que vous pouvez discuter avec vos collègues ou est-ce que vous savez quelles sont les pratiques dans d'autres secteurs ou...
Alors, c'est un métier qui a une part déjà de communication, en effet, avec les différents intervenants avec qui je peux travailler, mais il y a également une part de confidentialité puisque nous touchons des pathologies qui doivent rester forcément secrètes. Néanmoins, au niveau nous de la DGFIP, nous avons tout un réseau national. Donc, chaque direction a un correspondant handicap qui permet du coup d'être en relation les uns avec les autres et de mettre des pratiques en commun.
Je suppose que c'est des postes qui vont demander de la formation. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu dans votre cas avant votre prise de poste ou...
Alors, ma prise de poste donc a été faite suite au départ en retraite de l'ancienne collègue. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas eu de formation, mais j'ai eu très, très vite, dans les mois qui ont suivi, une formation d'une semaine. Donc, avec justement les mises en place des aménagements de poste, les procédures, les contacts pour qu'on ne se retrouve pas isolé.
Est-ce que c'est aussi une adaptation par rapport aux différentes tâches des employés ou comment?
Il faut pouvoir s'adapter en effet, puisque, bah, comme on disait, chaque handicap est différent et surtout chaque service est différent avec des contraintes particulières. Donc, il faut pouvoir à la fois répondre à l'handicap et conserver les besoins du service. Donc, chaque cas est vraiment différent et il faut s'adapter, mais il n'y a pas de souci, on a les moyens pour.
Michael, on parlait aussi des fameux pourcentages de travailleurs en situation de handicap. Vous nous disiez en début d'émission que vous avez un peu un poste de RH aussi où vous allez chercher les travailleurs en situation de handicap. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous avez un œil sur ce pourcentage des travailleurs ayant une RQTH dans votre domaine ou quelle est votre responsabilité par rapport à ça?
Alors, au niveau de la DGFiP, donc nous faisons un recrutement tous les ans, une fois par an. Donc, c'est au niveau central, donc le recrutement se fait, qui est ensuite donc dispatché sur chaque direction. On nous donne le nombre de recrutements à faire en fonction de chaque catégorie. Et ensuite, nous organisons au niveau de chaque direction locale le recrutement. Donc, le pourcentage en lui-même, nous n'avons pas d'impact réellement, mais nous y participons.
Vous, justement, de votre point de vue, est-ce que y a moyen d'encore améliorer ce pourcentage de travailleurs handicapés dans les entreprises ou
Alors, au niveau des entreprises, je ne sais pas exactement ce qui se passe partout, donc je ne vais pas pouvoir m'étendre dessus. En tout cas, au niveau de la DGFiP, je peux donc vous dire que l'attachement au recrutement de travailleurs en situation de handicap est très important. Chaque direction, en effet, a un certain nombre de travailleurs en situation de handicap. Et pour ma part, pour la DGFiP du Val-de-Marne, nous avons plus de 100 personnes en situation de handicap, ce qui est déjà très important. Et nous faisons en sorte d'améliorer leurs conditions de travail tous les jours.
vous privilégiez la qualité avant tout.
On essaye en effet de privilégier la qualité tout en prenant en compte la situation de chaque agent pour ne pas le mettre donc à porte-à-faux par rapport à sa situation de handicap, mais en prenant en compte également les besoins des services, puisque les services, il faut également qu'ils tournent dans de bonnes conditions.
Je suppose que c'est un équilibre à trouver qui est différent pour chaque agent et pour chaque poste. Ça ne doit pas être toujours simple.
Je vous confirme, ce n'est pas toujours simple, surtout que les services sont de plus en plus demandeurs, étant donné qu'ils ont de plus en plus de missions, donc se trouvant dans des situations parfois difficiles au niveau de gestion du personnel, donc il faut réussir à allier tout ça.
Vous n'êtes pas aussi la seule correspondante handicap à gérer ces 100 personnes. Vous êtes combien dans votre secteur?
Je suis la seule correspondante handicap du département du Val-de-Marne.
Ah,
Pour la DDFiP.
ça fait beaucoup de personnes à
Ça fait un petit peu de
gérer.
personnes à gérer, mais on fait de son mieux.
Ah oui. Donc, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui aient un problème. En même temps, ça peut devenir rapidement un enfer, un petit peu.
Non, ça va. Enfin, c'est vrai, j'apprécie beaucoup ce que je fais, donc il n'y a aucun souci. Et faut surtout se mettre à la place des personnes en situation de handicap qui ont besoin. Donc, je ne compte pas mon temps et ce n'y a aucun souci là-dessus. Et on arrive plus ou moins long terme, en effet, à trouver une solution.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire comment ça se passe de votre côté à partir du moment où il y a une personne en situation de handicap qui prend un poste, comment ça se déroule pour pouvoir faire ces adaptations, que vous puissiez faire votre travail finalement?
Alors, la première chose, il faut avoir connaissance de cette situation de handicap. Donc, on a deux situations, soit par le recrutement, donc automatiquement recrutement spécifique, donc on a connaissance, soit une situation de handicap qui se manifeste pendant la carrière de l'agent, et là, il faut que l'agent se manifeste auprès de moi ou de la RH ou du médecin de prévention, il faut que nous soyons informés. À partir de cette connaissance de situation, l'agent rencontre le médecin de prévention qui prescrit un aménagement de poste. Et à partir de cet aménagement de poste, c'est là que j'interviens, donc je mets en place donc les besoins nécessaires prescrits par le médecin.
Au niveau de ces aménagements, ça peut aller de quel type d'aménagement à quel type, disons, au plus petit ou au plus gros, entre guillemets?
Alors, c'est très, très varié. Ça peut être de l'aménagement de poste purement donc, de travail, donc des aménagements d'horaire, besoin d'aménagement d'horaire par rapport à ses missions pour des rendez-vous médicaux, par exemple. Ça peut être du matériel, un fauteuil ergonomique, un roller mousse ou pour des déficients visuels, un logiciel d'agrandissement. Et ça peut aller même via la mission handicap jusqu'à des aménagements immobiliers, donc des automatisations de portes, des moyens d'accessibilité pour des non-voyants, des choses comme ça.
Oui, donc ça peut avoir un impact sur l'ensemble de la structure.
Tout à fait.
Comment ça se passe avec les autres salariés en situation dite valide? Est-ce qu'il y a des rixes, des mécontentements? Parce que c'est vrai qu'au final, certains pourraient appeler ça des avantages, une forme de triche. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, vous, dans votre travail?
Alors, à mon niveau, j'ai eu très, très rarement de retours négatifs par rapport à ces aménagements de poste, puisque ce sont des aménagements pour l'agent en question, sauf les aménagements immobiliers dont on parlait. Mais les aménagements immobiliers concernent tout le monde et ça ne peut que satisfaire les agents. Je pense notamment à une automatisation de porte. C'est plus pratique qu'une porte qui s'ouvre toute seule, qu'il faut la pousser. Donc, honnêtement, je n'ai pas eu de retour négatif sur ces aménagements.
Est-ce que c'est un poste que vous voyez devenir systématique dans chaque structure?
Je pense qu'en effet, le poste de correspondant handicap devrait être obligatoire dans chaque structure, puisque la situation des handicaps étant particulière, il faudrait vraiment pouvoir prendre en connaissance et en charge chaque handicap pour que le salarié concerné ou l'employé ou le fonctionnaire, peu importe la situation de la personne, soit vraiment prise en compte pour qu'elle puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.
Et justement, au niveau de ces conditions, est-ce que vous discutez régulièrement donc avec vos différents salariés dont vous êtes responsable? Est-ce qu'il y a la communication est toujours simple? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers pour pouvoir discuter de leur situation? Ou est-ce que c'est toujours eux qui doivent venir vers vous, qui sont la prise d'initiative?
Alors, normalement, je devrais rencontrer chacun des travailleurs en situation de handicap une fois par an sur leur poste de travail. Je ne vous cache pas que les missions étant un petit peu variées et nombreuses, je n'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. Mais je vais essayer de le faire au mieux, surtout quand la crise sanitaire sera terminée, puisqu'on sait qu'on est un petit peu bloqué là-dessus en ce moment. C'est surtout en fait les agents qui prennent contact directement avec moi. La seule chose que j'essaye de faire, c'est de suivre leur renouvellement de RQTH, de reconnaissance de qualité de travail handicapé, puisqu'elles sont valables pour une certaine durée. Donc, 6 mois avant, je leur envoie un message en leur rappelant qu'il faut renouveler leur RQTH.
Justement, par rapport à la RQTH, par rapport à la MDPH, est-ce que c'est des liens que vous avez ou pas du tout? C'est juste en quoi ça vous est utile, entre guillemets, en fait, cette RQTH?
Alors, la RQTH est nécessaire pour la prise en charge financière des aménagements de poste. Donc, c'est pour ça que je veille à ce que les mises à jour soient faites régulièrement. Sinon, au niveau des liens avec la MDPH, je n'en ai pas, puisqu'en fait, la MDPH précise qu'elle traite directement avec la personne concernée.
Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous manque pour exercer votre métier?
S'il y a une chose qui me manque, c'est du temps. Voilà.
Et donc, avoir peut-être une personne, voire deux pour vous épauler dans votre tâche?
En fait, le correspondant handicap n'a pas pour tâche uniquement ce poste de correspondant de handicap. Il est souvent lié à un autre poste. Donc, c'est vrai qu'en fonction des directions, il serait souhaitable d'envisager que le correspondant de handicap soit vraiment une mission à part et entière, à 100%.
Question intéressante. On en va en discuter après notre pause musicale chez Auditoris. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le titre « Taking care of business » Bachman Turner Overdrive. Bonne écoute, chers auditeurs, on se retrouve juste après.
Thank you.
Et vous êtes de retour, chers auditeurs, sur Dear Valley People, toujours en compagnie de Sandrine Lepage pour parler de son poste de correspondant handicap, autrement appelé aussi référent handicap. Ça va toujours, Sandrine?
Ça va très bien, toujours, parfait.
Tant mieux. Juste avant la pause, vous nous disiez que votre travail de correspondant handicap n'est pas votre unique travail, que c'est souvent une double casquette. Quel est votre autre travail, Sandrine?
Je suis assistante sociale, donc c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est prestations sociales en relation donc directement entre les agents et la délégation d'action sociale ou nos associations différentes. Donc, c'est-à-dire que je gère également les logements, je gère les demandes d'inscription d'arbre de Noël, je peux gérer différents sujets par rapport à tout ce qui est prestations sociales. C'est très large, ça peut aller des CESU pour garde d'enfants jusqu'aux chèques vacances, jusqu'aux colonies. Enfin, vous voyez, c'est très large.
Et très varié.
Et très varié.
Est-ce que c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire que le poste de référent handicap n'est jamais seul, il est toujours recouplé avec un poste principal, je dirais, entre guillemets?
À ma connaissance, à la DGFiP, oui, je pense qu'il est toujours lié avec un autre poste.
Selon vous, pourquoi?
Je dirais que lorsque cette mission a été créée, l'handicap n'avait pas été pris à sa juste valeur. Et là, on voit en fait que donc que ce soit aussi bien les ministères que les directions prennent de plus en plus de conscience du handicap de leurs agents et mettent de plus en plus de choses en œuvre pour qu'ils puissent avoir des bonnes conditions de travail.
Ils se rendent compte aussi de l'ampleur de la tâche et que finalement, ce n'est pas un double emploi pour une personne. Ça demande à avoir un emploi à temps plein d'une seule personne.
Alors, je pense que là, ils commencent tout doucement à s'en rendre compte. Après, est-ce que les choses vont évoluer? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour. C'est vrai que nos conditions de travail sont, il faut le dire, sont quand même assez bonnes. Donc, les choses, à mon avis, ne peuvent qu'évoluer dans le bon sens.
Et aujourd'hui, avec la situation sanitaire que tout le monde connaît, comment votre poste de correspondant handicap a évolué? Je suppose qu'il y a de nouvelles problématiques qui ont été trouvées, qui sont montrées, notamment ces mises en place du distanciel. Est-ce que tout travailleur en situation de handicap peut travailler en distanciel? C'est aussi une question à se poser.
Alors, c'est vrai que la crise sanitaire a augmenté notamment ma mission, puisque, comme vous pouvez vous en douter, les aménagements de poste ont augmenté significativement. Normalement, chaque agent en situation de handicap et en situation de fragilité a été pris en œuvre et a été pris en charge. Donc, soit en télétravail lorsque cela est possible, soit en autorisation spéciale d'absence si le télétravail n'est pas possible.
D'accord. Donc finalement, des solutions ont été trouvées. Il n'y a pas des problématiques qui restent insolubles, selon vous?
Pour moi, chaque situation a trouvé une solution, en effet. Après, on a le souci, en effet, de l'isolement des personnes qui malheureusement, sont chez elles à temps plein, j'allais dire, hein, en permanence. On essaye de les contacter le plus régulièrement possible pour maintenir un lien social. Bon, maintenant, il faut espérer que la crise sanitaire se termine le plus rapidement possible et que chacun puisse retrouver une vie presque normale.
C'est sûr. Malheureusement, on ne peut pas non plus attendre la fin de la crise sanitaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir mener une certaine forme de vie, je dirais. Est-ce que vous, pour parler du recrutement, comment est entendu le handicap? Donc, vous nous avez parlé de recrutement spécifique, où là, en effet, le handicap est, dévoilé simplement. Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler en recrutement ou pas?
Alors, donc, le handicap n'est pas dévoilé réellement, puisqu'en fait, lorsqu'un agent en situation de handicap est recruté par la voie contractuelle, son recrutement est particulier, donc son chef de service connaît ce mode de recrutement. Mais par contre, le handicap n'est pas abordé. Il n'est pas abordé puisque nous n'avons pas à demander à la personne quel est son handicap. Donc, même lorsque nous recrutons cet agent, nous ne savons pas quel est son handicap. Nous lui demandons quel type d'aménagement de poste il a besoin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais nous ne lui demandons jamais quel est son handicap.
D'accord, donc ça va demander aussi à, aux salariés de bien se connaître, de bien connaître son handicap et de savoir les aménagements dont il a besoin.
Bon, c'est ça. Bon, après, il y a toujours la visite avec le médecin qui va pouvoir déterminer avec la pathologie les aménagements nécessaires. Après, nous laissons la liberté à l'agent en question de pouvoir en parler librement. S'il estime avoir besoin de parler à son chef de service ou à ses collègues, ou les deux, hein, c'est encore mieux, il est tout à fait en mesure de pouvoir en parler. Mais c'est lui qui fera la démarche.
Et de manière plus générale, c'est vrai, cette question de, du RQTH, est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce qu'il faut le mettre sur le CV ou non lorsqu'on cherche un travail? Est-ce que vous avez un avis sur cette question?
Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux dire les choses au prime abord, puisque en fonction du handicap, il y a des grandes chances qu'à un moment le handicap se voit, ou au moins qu'il y ait un souci par rapport au poste. Nous, on a la chance de pouvoir aménager le poste, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, repostuler pour un poste sans en parler me paraît très compliqué. D'autant plus que nous estimons que l'agent qui parle de son handicap a accepté son handicap et du coup vit avec. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple d'intégrer quelqu'un qui est complètement en accord avec soi-même que quelqu'un qui est déjà, je dirais, en opposition directement en permanence.
Et en conclusion, est-ce que vous avez un avis sur, on va dire, la politique générale qu'il peut y avoir sur le travail et le handicap? C'est vrai que c'est encore compliqué aujourd'hui pour des personnes en situation de handicap à trouver un travail. Bon, il n'y a pas de réponse toute simple. Mais vous, je suppose qu'avec votre travail, vous avez un attachement à ça, vous voyez des choses passer, vous avez l'œil aussi, parce que il faut que vous vous teniez au courant de ce qui se passe dans le monde du travail et du handicap. Vous, est-ce que vous voyez des changements particuliers qui pourraient nous montrer optimiste? Bon, on a parlé un petit peu de cette prise de conscience des dirigeants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent dans ce sens?
Alors, je dirais que le handicap est quand même pris au fur et à mesure de manière quand même un petit peu plus consécutive, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, on est bien d'accord. Mais bon, je dirais que ça dépasse même le cadre du travail. Je dirais que c'est la société en général qu'il faudrait évoluer au niveau du handicap, puisqu'on se rend compte facilement que juste un déplacement peut être très compliqué pour quelqu'un qui est en situation de handicap, donc aussi bien sur son poste de travail que dans la rue. Donc, je pense que c'est la société générale complète qu'il faudrait faire évoluer.
Je vous remercie, Sandrine, pour votre participation.
Je vous en prie, merci à vous.
Passez une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode chez Auditoris. On se retrouve la semaine prochaine pour déjà notre dernier épisode sur notre thématique handicap et travail. Bonne journée à tous.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.